L'instant ciné par Corinne Saunier.
Bonjour, aujourd'hui dans l'instant ciné, nous parlerons d'un film actuellement à l'affiche, The Zone of Interest, en français La Zone d'intérêt, réalisé par Jonathan Glazer. The Zone of Interest donne à voir le quotidien, les aspirations, les ambitions même, la vie de famille d'un couple et de ses 5 enfants, dont un nourrisson. Le père travaille, la mère reste au foyer pour s'occuper des enfants et gérer la maisonnée, donner des consignes à la domesticité, et son intérieur, impeccablement rangé et ordonné, est d'une propreté immaculée. On trouve dans le film beaucoup de pièces blanches à l'éclairage cru quasi médical. Le père part tôt le matin, sacoche en main, au travail, taciturne et affairé, rasé de près. Le soir, à son retour au bercail, il dîne avec la famille au grand complet, passe du temps avec ses enfants, à qui il lit des histoires, patiemment, tendrement, pour les aider à s'endormir. Dès qu'il a un peu de temps libre, il part aussi faire des promenades avec eux en forêt. Il va également régulièrement voir sa jument, qu'il adore, et essaie de transmettre sa passion pour l'équitation à son fils aîné, avec qui il s'adonne à la randonnée équestre. Pour son anniversaire, sa petite famille lui a offert un beau canoë qui va lui permettre, en amoureux de la nature, de faire des excursions en barque avec ses fils. Chaque après-midi, laissant un peu souffler la nurse, son épouse fait visiter le beau jardin attenant à la maison de leur dernière-née, qui ne parle ni ne marche encore, lui nommant les nombreuses variétés de plantes et de fleurs, les lui faisant sentir, toucher du bout du doigt, de ses petits doigts laiteux de bébé. Le week-end, tout le clan se retrouve pour de paisibles dimanches au bord de l'eau, entre baignades et pique-niques, et profite de la vie. Le métier du père ? La mort. La mort est son métier, pour paraphraser le titre d'un roman de Robert Merle qui traite du même sujet. Cet homme qui s'évertue à renvoyer tous les signes extérieurs d'exemplarité et qui pense sans l'ombre du moindre doute être exemplaire est Rudolf Höss, directeur du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Et si l'on y regarde de plus près, dans le film, la mort est partout. Dans les images nocturnes en négatif de la résistance polonaise, incarnée par une fillette, dans les cris d'atroce souffrance qu'on entend depuis les fenêtres de la maison des Höss qui jouxte le camp. Par-dessus le mur de béton, cloison dérisoire qui sépare la propriété du camp, et d'où l'on voit circuler la chape lourde et grise de la fumée qui sort des cheminées des crématoriums. Une odeur que le film ne peut pas restituer, mais qui est celle de la chair humaine consumée, et qui, paraît-il, est une odeur reconnaissable entre toutes, même quand on ne l'a jamais sentie. Une odeur qui réveille en soi une terreur absolue, un effroi comme inscrit dans les gènes de tout être humain, qui sait ce que c'est que la mort qu'il respire alors. On dit parfois de films qu'ils éclatent de vie, comme les scènes de joie dans les films de Chaplin par exemple. On peut penser notamment à la scène du Kid, où Charlot et le petit garçon se font des crêpes et les mangent avec délectation. The Zone of Interest, à l'autre bout du spectre, éclate de mort, sous les dehors vertueux et polissés des personnages. Sandra Hüller, méconnaissable durant le premier quart d'heure du film, tant son rôle, ses attitudes, ce qu'elle dégage, sont aux antipodes du personnage qu'elle incarne dans Anatomie d'une chute, est à ce titre la plus glaçante peut-être. La cruauté transpire sous son masque affable et sérieux. Son ambition avide et vidée de toute humanité aussi, elle qui éclate en sanglots quand son mari lui annonce qu'ils vont devoir quitter la maison. Elle qui la considère comme un paradis où ses enfants s'épanouissent. Il va de soi que la réalité est tout autre, mais la voit-elle ? Peut-elle seulement la voir ? Eux et sa famille ne sont pas de bons vivants, ce sont de mauvais vivants, des morts vivants, qui rendent grâce chaque jour à la mort pour tout ce qu'elle peut leur apporter de confort et de sentiment de réussite sociale.
Die herrliche Zeit, die mir gemütlich im gastlichen Hause Hösker lebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Ce film est-il lui-même un bon film ? L'adjectif semble si inapproprié, si déplacé vu le sujet traité. Est-ce un mauvais film ? La droiture et l'honorabilité de cette démarche cinématographique est absolument indiscutable. Vaut-il la peine d'être vu ? Oui, incontestablement. Est-ce un film important ? Oui. Est-ce un film qui atteint son but ? C'est-à-dire dénoncer le crime contre l'humanité, ici à travers le prisme de l'indifférence inqualifiable, presque pire que la haine tant elle est implacable, de la famille Heuss pour les déportés assassinés et réduits à néant dans le bien nommé camp de la mort, qui n'est pour eux qu'une zone d'intérêt, au sens le plus matérialiste du terme. Une œuvre artistique n'est pas un témoignage et, malgré la précision rigoureuse et documentaire du film, son réalisateur adopte forcément un point de vue. Son point de vue est clinique, comme la conception et la mise en œuvre nazie du génocide juif, mais précisément pour la renvoyer en miroir terrifiant. Seulement, qu'est-ce qu'un tel film peut transmettre ? Que les nazis étaient d'une insondable froideur et d'une violence inouïe ? Qu'ils étaient des pères de famille consciencieux ? Qu'ils ne désignaient jamais les déportés par des dénominations humaines, les qualifiant notamment de « pièces »,« unités », de « matériel » ? Qu'ils ont organisé le génocide comme une activité industrielle, avec des préoccupations similaires en termes de rendement, d'efficacité, de réduction des coûts. Voir la sidérante réunion de tous les directeurs de tous les camps nazis, présidés par Heuss, un temps muté à ce poste, sorte de CA apocalyptique, avec, comme pour tout CA, les absents excusés, l'ordre du jour. Si vous avez déjà siégé à un conseil d'administration, vous ne vivrez plus jamais cette expérience tout à fait de la même façon après ce film. Quiconque s'est un peu informé sur la Shoah sait tout cela. La question centrale, cruciale, demeure toujours la même, envers et contre tout. Comment amener à penser l'impensable, partager l'impartageable, dire l'indicible, montrer l'immontrable ? Il y a une aporie de la transmission de la mémoire des camps qui a tragiquement fait le lit du révisionnisme et du négationnisme. La démarche historique sur ces sujets se doit d'être absolument irréprochable, dénuée de tout pathos, et viser sans relâche, sans jamais fléchir ni faiblir, l'exactitude. Désormais, par exemple, on parle plutôt de centre de mise à mort que de camp d'extermination, pour affiner encore l'objectivité de la qualification du lieu, en extraire comme l'essence pure du fait historique. Mais une œuvre artistique, et en l'occurrence cinématographique, doit-elle adopter la même démarche ? Est-ce que mettre de l'émotion dans « The Zone of Interest » aurait porté atteinte à la mémoire de ce crime contre l'humanité ? Aurait-ce été immoral ? La mémoire des détenus rescapés de ces camps est aussi une mémoire sensorielle. C'est peut-être celle qu'on n'oublie jamais, jusque dans ses moindres détails, parce qu'elle est gravée dans la mémoire du corps. Le point de vue du film est extérieur au camp, de toute façon irreprésentable. Le fils de Saul, de Laszlo Nemes, sorti en 2015, a respecté cette contrainte essentielle en centrant tout le film sur l'image du personnage principal et par un travail sonore exceptionnel. Même si la bande musicale du film de Glaser est elle-même très travaillée, quoiqu'un peu lourdement dramatisé. Donc, par une approche plus sensorielle qu'il n'y paraît. The Zone of Interest est comme le contre-champ cinématographique du fils de Saul. Il se situe juste de l'autre côté des barbelés. Et pourtant, il marque moins les esprits. Le travail de mémoire, pour être efficient, a besoin de marquer les esprits. La liste de Schindler de Steven Spielberg, c'est sans doute trop. quoique ce ne soit pas un mauvais film pour autant. The Zone of Interest, SAC. Où placer le curseur de l'émotion, celle qui atteint le spectateur? Peut-être la toute fin du film, en montage alterné, interroge-t-elle justement cette question, et plus généralement celui de la muséification d'Auschwitz, à la fois nécessaire, indispensable, mais potentiellement dangereuse dans le même temps. Car Auschwitz n'est pas un lieu comme un autre, et ne saurait le devenir, sous peine de le déshistoriciser. L'est-il devenu? Ce serait tragique. Est-il devenu une zone d'intérêt touristique, avec sa boutique souvenir en fin de parcours? Comment l'appeler autrement? La menace négationniste plane alors de nouveau, ou en tout cas une menace nihiliste. L'enjeu est dépassionner sans déshumaniser cet épisode de l'histoire contemporaine. Rien n'est plus complexe. Allez voir The Zone of Interest et faites-vous votre idée. À bientôt.